maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est Gabriel Durnerin, c'est juste, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, ouais, tout à fait. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Qui est dans notre micro cette fois-ci. Nous sommes toujours à Essen version 2011 et Gabriel, en fait, tu es responsable de la communication de la société Yellow.
Non, c'est ça, je m'occupe de la communication et je suis chef de projet, c'est-à-dire que je fais le suivi, le développement des jeux.
Voilà. Ça veut dire que c'est à toi qu'on présente les prototypes, en fait.
C'est à moi qu'on présente les prototypes, tout à fait. C'est moi qui...
Pouvoir de dire oui ou non.
C'est ça, c'est moi qui dis oui ou non.
Alors, ça fait pas très très longtemps que tu es un employé de Yellow, en fait.
Ça fait un an et un mois, à peu près. Ouais, ma première vraie mission chez Yellow, c'était ça l'année dernière. Donc, voilà.
Et donc, ça veut dire que la société grandit. Yellow était présent en tant que distributeur. Et puis maintenant, depuis 2-3 ans, on a vraiment de l'édition Yellow.
Il y a deux types d'éditions. Il y a des éditions qui sont en traduction. Donc, la première, c'était Noroshima X, qui était édité par Portal à l'origine, qu'on avait fait pour la France. Et puis, oui, ça va faire un an et quelques qu'on fait de l'édition à proprement parler, donc des jeux qui sont des jeux Yellow de bout en bout, avec Bibios, King of Tokyo et le Roi des Nains, et puis Innovation là, qui arrive.
Donc justement, ce ne sont pas vraiment des sorties sur le salon de Essen, il y a Innovation qui est vraiment la sortie de Essen, mais il y a évidemment une actualité sur l'année. Le jeu qui a fait un peu le buzz, parce que c'est une adaptation d'un roman de Terry Pratchett, c'est le Disque Monde, donc Ankh Morpork, qui est le nom de la ville de la capitale de ce monde un peu spécial. Quelle est donc l'idée? C'est vraiment une édition de Yellow ou pas?
Alors non, Disque Monde, c'est Trifrog qui le fait, donc la société de Martin Wallace, vu que c'est lui l'auteur, et puis c'est une coproduction de plusieurs pays à le faire, donc chacun pour son pays, donc quand même un gros travail d'adaptation. On a travaillé directement avec Patrick Couton, qui est le traducteur officiel de Terry Pratchett pour la France. Et donc nous, on le fait juste pour le marché, enfin juste déjà pas mal, pour le marché français.
Okay. Et donc c'est Martin Wallace, c'est évidemment un nom emblématique pour les plus gamers d'entre nous, puisqu'il y a Steam, il y a Brass, il y a toutes ces choses-là. On l'a vu aussi avec King of Tokyo, avec Richard Garfield. C'est aussi là-dessus que mise Yellow, c'est sur le nom de l'auteur.
Alors non, si ça fait plaisir de travailler avec des auteurs qui sont connus et qui ne sont pas connus pour rien, parce que c'est des auteurs de qualité, les deux que tu as cités, mais on travaille aussi avec des auteurs qui sont de grands inconnus du monde du jeu, donc les jeux ne sont pas encore sortis, mais ils arrivent, on a des trucs dans les tuyaux qui arrivent avec des auteurs dont c'est leur tout premier jeu, et voilà, tout ce qui nous importe, c'est le plaisir qu'on prend à y jouer, ce qu'apporte le jeu, en quoi c'est nouveau... Est-ce qu'on se fait plaisir en y jouant, tout simplement, quoi.
Alors justement, Ankh Morpork, donc le jeu de Disque Monde, c'est quoi la mécanique, assez rapidement?
Alors, ça va être du card driven, comme on dit. L'idée, c'est que chacun joueur a un objectif secret, donc tout le monde n'a pas le même. Quelques joueurs peuvent avoir le même, mais pas tout le monde. Et donc, tout va être joué en fonction des cartes. En fait, on a des cartes actions qui sont toutes différentes. Et à son tour de jeu, on en joue une, on en pioche une. Et puis, c'est tout. Donc, les cartes vont nous dire ce qui va se passer. Donc, on va placer des nouveaux agents dans la ville, on va construire des bâtiments, on va tuer les agents des adversaires et ce genre de choses.
Et le jeu, ben, ça inspire vraiment du roman à ce moment-là?
Oui, c'est-à-dire que le jeu s'inspire, on va dire, de l'univers des romans, parce que ça ne reprend pas un roman précisément des Annales du Disque Monde, mais ça reprend l'ambiance générale. C'est-à-dire que l'univers de Terry Pratchett, c'est un univers qui est très carré, très coordonné. Au final, même s'il y a beaucoup de choses dans tous les sens, au final, c'est un univers qui tient la route, mais qui est extrêmement chaotique. Et en fait, le jeu est un peu la même chose. C'est-à-dire que le jeu tourne, les règles sont simples, elles sont carrées, il n'y a rien de très compliqué à retenir, ça coule tout seul, mais au final c'est assez chaotique. Et donc voilà, les deux sont très liés par rapport à ça, et toutes les cartes sont des cartes qui représentent des personnages ou des lieux de l'univers, et tous les effets de ces cartes sont clairement liés à la personnalité ou ce que peut faire dans la vie cette personne dans l'univers de Terry Pratchett.
Donc ce jeu-là a quand même une image d'un jeu assez long, et tu parles d'un jeu assez chaotique.
C'est pas très long, hein. c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, une partie. Hein. On est sur un jeu qui est assez facile d'accès même. C'est pas parce qu'il y a marqué Martin Wallace sur la boîte, ce sera pas la première fois. Hein. Il a fait quelques jeux dont on parle peu, mais qui sont des jeux assez familiaux. Et il est plus connu pour des Steam et ce genre de choses, mais il a fait quelques jeux plutôt familiaux. Et là, on est sur un jeu qui est assez familial, ouais, effectivement. Enfin, familial qui s'y connaît un petit peu en jeu, mais très accessible en tout cas.
Pas parti pour 6 heures de jeu.
Ah non, loin de là, non.
Tu sais si Terry Pratchett a vraiment participé à l'édition du jeu ?
Alors, je pense qu'il a donné son aval de toute façon, puisque il a une société qui gère l'ensemble de ses droits. Donc voilà, je pense pas qu'il ait participé au développement. Il a dû avoir un regard derrière. De toute façon, toutes les forces ont été réunies pour faire un objet qui soit vraiment un hommage à l'œuvre, puisque le jeu, ce que je disais, fait référence à tout ça. Mais toutes les illustrations viennent des illustrations officielles. Certaines illustrations ont été commandées juste pour le jeu parce qu'elles n'existaient pas. Certains personnages n'avaient jamais été illustrés. Donc on a demandé aux illustrateurs officiels de faire l'illustration pour le jeu. Donc on est quand même sur... On est loin de dénaturer l'univers avec ce jeu-là.
Donc ça c'est évidemment donc Ankh-Morpork. C'est sorti un peu avant Essen.
C'est sorti autour du 10 septembre, quelque chose comme ça. Ouais.
Ok, la sortie de Essen, on l'a dit, c'est Innovation. Allons-y, qu'est-ce que c'est Innovation ? L'auteur c'est qui exactement ?
Alors l'auteur c'est Karl Schulik qui a fait Uchronia, qui sortira chez nous dans le premier trimestre 2011, et donc Voyage to Rome qui était sorti aux États-Unis un bout de temps. Et donc Innovation, c'est un jeu de civilisation qui se joue strictement qu'avec des cartes et qui va durer, on va dire une première partie ça va durer une bonne heure, quand on maîtrise le jeu ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, pas plus. L'idée c'est qu'il y a 150 cartes à peu près qui sont toutes des innovations qu'on va pouvoir apporter à sa civilisation. Sa civilisation elle va évoluer à travers le temps, on commence aux premiers âges préhistoriques et on arrive jusqu'à maintenant et un peu dans le futur. Et au fur et à mesure du jeu on va placer ces nouvelles innovations devant nous qui vont nous apporter de nouvelles capacités, de nouveaux pouvoirs qu'on va pouvoir mettre en branle pour pouvoir gagner des points, dominer certains âges et gagner la partie au final.
C'est un jeu de combinaison de cartes alors ?
C'est un jeu de combo très clairement, oui. Tout joue là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des cartes très puissantes et qui vont tenter un joueur de rester sur la stratégie liée à cette carte-là qu'il aura récupérée tôt, mais qui au final se feront très vite dépasser par des cartes des âges suivants. Donc les joueurs qui auront subi le début de partie à cause d'un joueur qui aura pris de l'avance grâce à une carte vont très vite pouvoir rattraper le pli et récupérer tout ce que l'autre leur avait volé. Enfin voilà, donc le jeu se rééquilibre de lui-même avec la puissance des cartes qui est progressive au fur et à mesure du jeu.
D'accord. Et la mécanique de récupération des cartes, elle est comment ?
La mécanique de récupération, il n'y a pas de mécanique de récupération des cartes à proprement parler, mais c'est, disons qu'il y a pas mal de cartes qui permettent de piocher, pas mal de cartes qui permettent d'aller chercher des points directement dans les points des adversaires. Enfin voilà. En fait, les règles en elles-mêmes prennent à peu près 5-10 minutes à être expliquées. Après, la profondeur du jeu vient du fait que toutes les cartes sont différentes, mais s'il y a des typologies de cartes qui sont régulièrement les mêmes, on est sur de la combo et des cartes qui marchent très bien les unes avec les autres et qui ne marchent pas du tout quand on essaie de faire autre chose. Voilà. C'est un jeu qui nécessite un petit peu d'apprentissage, c'est-à-dire que la première partie on est un peu perdu par la masse de profusion de possibilités, alors que sur les parties suivantes, même si on ne connaît pas les cartes par cœur, on voit à peu près quel est l'esprit, à quoi ça pourrait servir, qu'est-ce que ça apportera sur la suite du jeu.
Ok, donc ça c'était Innovation, qui est donc jeu de cartes, on l'a dit. Une autre sortie, c'est Ninjato, qui est dans un univers japonais médiéval. Ça fonctionne comment ça ?
Alors, Ninjato, ça fonctionne comment ? Ninjato, c'est un jeu, on va dire, qui est à la croisée du jeu allemand avec le jeu américain. Dans le sens où le jeu américain, je caricature, mais c'est le thème avant tout, et le jeu allemand, on va dire, c'est mécanique avant tout. Et bien là, on a un univers et un thème qui est très fort, qui ressort à tout point de vue niveau mécanique. Il n'y a rien qui sort de nulle part, mais qui est servi par une mécanique, on va dire, allemande, c'est-à-dire assez carrée, assez facile d'accès, et qui roule toute seule. C'est un jeu de placement, c'est-à-dire qu'à mon tour de jeu, je vais pouvoir placer mes shurikens, qui sont les pions, sur le plateau, qui va me permettre d'accéder à l'action en elle-même. Les actions qui vont me permettre soit de récupérer des cartes de combat, soit de prendre des nouvelles compétences qui vont me permettre d'être meilleur en cours de jeu, soit de cambrioler des maisons, soit d'acheter et de corrompre des émissaires ou le peuple pour gagner des points grâce à ce que j'ai récupéré dans les maisons. Une grosse partie de l'intérêt du jeu, c'est qu'au milieu de cette mécanique de placement, c'est qu'il existe une mécanique de stop ou encore. C'est quand on veut cambrioler une maison, on va en fait se retrouver face à une série de gardes qu'il va falloir affronter les uns avec les autres avec un système de cartes tout simple. Le premier, on connaît sa valeur, c'est la sentinelle, on la voit venir de loin. Une fois qu'on est à l'intérieur de la maison, par contre, on ne connaît pas les nouveaux gardes. On les découvre au fur et à mesure, et avant de le révéler, on décide d'y aller ou pas, d'aller plus loin pour récupérer des trésors de plus grosse valeur. Le truc, c'est que si je me fais un moment choper par un garde, c'est-à-dire que je n'ai pas les cartes pour pouvoir le vaincre, je pars avec un seul trésor parmi tout ce que j'ai pu récupérer. Donc il faut savoir s'arrêter au bon moment et pas prendre trop de risques par rapport à ça.
Et ça veut dire quoi comment est-ce qu'on arrive à estimer ce risque-là Donc tu dis on ne connaît pas les gardes qui sont à l'intérieur, mais il y a quand même des indices.
De toute façon, les cartes ont une valeur entre 1 et 5 de toute façon, on sait à peu près à quoi on va avoir affaire. L'idée, c'est qu'en fait, y a les gars ont une valeur entre 1 et 5. On a en main des cartes qui ont une valeur entre 1 et 5. Donc, à chaque fois que j'ai cette barre tringard, je vais dépenser les cartes. Donc, je sais quelles cartes il me reste en main, donc je vois à peu près. Et les gardes, je vais les battre. Si j'ai décidé de rentrer dans la maison de force, il faut que je joue des cartes qui ont une valeur supérieure à eux. Si je décide de rentrer en infiltration, une carte qui a une valeur inférieure à eux. Donc, si je suis en infiltration et qu'il me reste plus qu'un 4 en main, par exemple, ça risque d'être très risqué quand même de continuer. Enfin, voilà, la prise de risque est quand même assez mesurée. On se rend compte de l'impact à peu près. Voilà.
Là, on est sur un jeu qui dure combien de temps ?
On est sur un jeu qui dure une heure et quart, un truc dans ce genre-là.
Et ça, c'est une rencontre. L'auteur, tu l'as dit ?
L'auteur, c'est Adam West et Dan Schneik. Alors, c'est pareil, c'est une coproduction. En fait, on est plusieurs éditeurs à le faire. C'est un jeu qui est édité à l'origine aux États-Unis par Crosscut et qu'on édite pour la France et pour le marché francophone.
D'accord. Une autre petite boîte aussi que j'ai vue qui s'appelle I Will Survive, qui m'a l'air d'être un jeu un peu spécial où on doit faire des signes un peu spéciaux. Enfin, je n'ai absolument rien. J'ai vu des gens jouer, je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, I Will Survive, c'est un jeu qui est édité par Kinney Games, qui est une maison d'édition qui est dirigée et qui est représentée par Antoine Rio, qui est déjà sorti au tableau auparavant. Et donc Antoine Rio, qu'on distribue en fait pour la France, va sortir donc à We Survive, là, qui sort très prochainement, qui est un petit jeu d'ambiance très simple où le pitch, c'est qu'on est tous des aventuriers, on vient de traverser la jungle, on a réussi à trouver dans un temple secret des trésors géniaux, c'est super. Mais pour ça, on a traversé le territoire de cannibales extrêmement voraces qui nous poursuivent. Et quand on arrive au niveau de notre bateau, c'est-à-dire que le bateau a pris feu. Et donc, il ne reste plus qu'une place dans l'avion monoplace. Et donc, on va s'affronter entre nous pour être celui qui va avoir une place dans le bateau. Il ne va surtout pas se faire manger par ceux qui nous poursuivent. Donc maintenant, comment ça se passe en termes de mécanique ? C'est un jeu qui se joue en simultané. Chaque joueur, en fait, a accès à trois signes qu'il va falloir qu'il fasse avec ses mains et sa bouche, le bruitage qui va avec, qui vont lui permettre soit de tirer sur quelqu'un, soit de recharger s'il n'a plus de munitions, soit de se protéger pour éviter que quelqu'un lui tire dessus. Ce choix se fait en simultané, c'est-à-dire qu'on va tous taper sur la table et faire le signe en même temps. Donc ça ressemble beaucoup à un jeu pour enfants qui était un jeu où on jouait cow-boy, on tape sur la table et puis on charge, etc. Et ben c'est ça la même base, sauf que là chaque personnage a ses petits pouvoirs en fait, sa manière de frapper qui est donc chacun des signes et des sons différents, mais en plus de ça, on n'a pas tous le même type d'arme, le même type de munitions, donc ça reste très simple. Hein, mais voilà, on est clairement sur un jeu d'ambiance, c'est joué en un quart d'heure grand maximum, et ça fait une bonne ambiance autour de la table, effectivement, parce qu'il y a pas mal de bruit, il y a pas mal de entre le son de taper sur la table et le bruitage et tout ça, voilà, c'est très rigolo.
Ok, et donc ça sort très très bientôt.
Oui, très bientôt. Oui.
Et alors on va terminer avec plus un jouet qu'un jeu, c'est-à-dire on est à cheval entre les deux. C'est une espèce de chose bizarre qui s'appelle Perplexus et qui est une espèce de sphère avec un labyrinthe à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? Comment est-ce que c'est arrivé chez Yellow, ça ?
Alors, Perplexus, c'est sorti il y a un bout de temps aux États-Unis et on est tombé dessus par hasard. Et donc, quand on est tombé dessus par hasard, on a été tous très fans, c'est-à-dire qu'on l'a récupéré, on l'a amené au bureau et c'était impossible de l'enlever des mains de quelqu'un, c'est-à-dire que tout le monde voulait y jouer absolument, donc il faut absolument qu'on le fasse parce que voilà. Et donc on est très content de le faire. Et le terme cassette me dérange un peu, c'est pas vraiment un cassette, c'est un jeu de parcours, c'est très inspiré des jeux de parcours en bois qui étaient carrés avec une bille qui devait circuler à travers des murs, il y avait des trous à éviter, il fallait qu'on tourne des petites manivelles pour faire ça. C'est inspiré de ça, sauf que là c'est une boule en plastique ronde, quand il y a un parcours qui est en 3D et on va déplacer la bille le long de ce parcours, donc il va falloir qu'on pivote en permanence la boule pour que la bille suive le bon parcours. Il n'y a qu'un seul parcours, le parcours en soi n'est pas très compliqué, mais toute la difficulté c'est la gestion de la 3D, le fait de faire des chutes en changeant de perspective en même temps de la chute, enfin voilà. Quelques pièges, quelques moments où on ne sait pas où on est et où on doit aller, alors qu'il suffit de retourner, de se rendre compte que si je tourne à 484 degrés, peut-être que ça passe, enfin voilà. C'est un truc très addictif, parce qu'une fois qu'on l'a dans la main, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et donc en fait, c'est une gamme, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a sorti que l'original, qui est sorti il y a très peu de temps en France, et on sortira l'Epic, donc une version plus difficile plus tard. Et il y a une autre version, un nouveau modèle qui arrivera. Voilà.
Mais on sait déjà la complexité qu'elle représentera ou...
On va dire que ce sera un intermédiaire entre l'Epic et l'original. Il y a le Rookie qui existe sur le marché américain, on verra sur le marché français, on attend un petit peu, qui lui est destiné aux enfants, qui pour l'instant est prévu, mais pas pour tout de suite. Donc voilà.
Donc ça veut dire que ben, tu sais pas, que Yellow a eu un coup de cœur pour ça, ça ne veut pas spécialement dire que ça va ouvrir une gamme de jouets, jeux, casse-tête
Non, pas nécessairement, mais on a toujours eu une gamme de jeux un peu familiale et très accessible. Je pense à QueerCal, évidemment, qui... C'est que dans le milieu joueur, on parle plus de Yellow pour Dungeon Lord et ce genre de choses. Mais au final, QueerCal, c'est un jeu qui nous tient très à cœur. Et Perplexus, ça rentre dans la continuité, même si ce n'est pas du tout le même type de jeu. On est sur le même type de public. C'est des gens qui ont envie de prendre un truc dans les mains, de jouer simplement pour jouer, pour le plaisir de jouer, sans prise de tête. Et donc, on compte continuer de toute façon à avoir cette gamme-là aussi qui se développe.
Alors, QueerCal, tu viens d'en parler. QueerCal a remporté le Spiel des Jahres 2011. Évidemment, vous êtes très heureux pour ça. Mais est-ce qu'on vous avez senti l'impact assez rapidement en termes de distributeur de QueerCal?
Alors, pareil, QueerCal, on le fait juste pour le marché francophone. C'est un jeu américain à la base. Donc le Spiel, ça a beaucoup d'intérêt quand on est allemand. Ça, c'est sûr, c'est un intérêt direct parce que ça a beaucoup, c'est très médiatisé. En France, ça a eu un impact, mais c'est pas voilà. Mais le jeu se vend bien sur la durée, donc tout va bien. Beaucoup de gens y continuent, donc c'est pas un souci. Mais il n'y a pas un impact en France en direct qui est phénoménal. Le jeu devient un succès, une référence en France parce que les gens y jouent, parce que les gens achètent, parce que les boutiques le conseillent, parce que ce genre de choses. Les prix en France ont un peu moins d'impact que ça peut en avoir en Allemagne quand même.
Ça fait sur les 6 mois qui viennent, tu as une idée de ce qui va sortir?
Alors, dans les 6 mois qui viennent, c'est long. Il y a des choses qui sortiront.
Avant, je demandais sur un an, donc maintenant je fais sur 6 mois.
Sur 6 mois, il y a des choses qui sortiront dont personne n'a entendu parler et dont on parlera en temps et en heure. Mais entre temps, il y a d'autres choses qui vont sortir. Il y a Dungeon Fighter, qui est un jeu coopératif assez délirant, édité par Cranio Création, qu'on fait pour la France et qui est très fun. Enfin, pour y avoir lu plusieurs fois, c'est vraiment excellent. Donc, un jeu où il faut jeter des dés sur la table pour que tu rebondisses et tombes sur une cible et le faire avec les yeux bandés en sautant sur place sur un pied. Voilà, et
c'est ce qu'on appellerait un dungeon crawler d'ambiance.
C'est ça, c'est un dungeon crawler d'ambiance. C'est vraiment très fun. Et puis, il y a Dungeon Pets qui arrivera aussi prochainement, donc qui est, on va dire, le fils spirituel de Dungeon Lord, par Vladaj Vatil aussi, où on est des. Les petits lutins qu'on plaçait dans son. Les petits diablotins, pardon, qu'on plaçait dans son donjon dans Dungeon Lord, cette fois c'est nous, et on gère des monstreries, en fait, une ménagerie à monstres. Et donc on va élever des petits monstres qui sont tout mignons, qui sont destinés à devenir très gros et très méchants, et qu'on va vendre avant qu'ils deviennent très gros et très méchants à des Dungeon Lords, justement, pour agrémenter leur donjon.
J'imagine que Vladaj Vatil a gardé le même ton humoristique que Dungeon Lord.
Oui, le ton humoristique est le même, et même si les deux jeux sont très différents, il y a une filiation entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas. L'univers pas juste garder pour garder l'univers, parce que l'univers de Dungeon Lord fonctionne, mais aussi parce que il y a mécaniquement des ressemblances assumées. Le jeu apporte beaucoup de choses, c'est vraiment très intéressant. Après, on est sur un jeu joueur très clairement, hein. C'est même plus que Dungeon Lord, je pense. Mais c'est, enfin voilà, pour avoir pour l'instant, j'ai eu le temps de faire 4-5 parties, c'est vraiment très très bon.
Ça, tu as une idée de quand ça sort?
Ça sortira les deux dans la dernière quinzaine de novembre. Donc, dans pas longtemps.
Ouais. Parfait, merci beaucoup Gabriel.
Mais je t'en prie, merci à toi.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.